Chers auditeurs, chères auditrices du monde entier, nous sommes ravis de revenir vers vous pour cette troisième émission de la journée de la web radio des rencontres européennes du social qui se tient à Paris, au Centre National des Arts et Métiers. Donc cette émission est un dialogue, comme vous le verrez, entre Lionel Lardinois, donc des CMEA de Belgique, et Marie-Hélène Baquet, chercheuse à Paris Ouest Nanterre et au laboratoire Mosaïque. Donc en fait, vous avez eu le privilège d'entendre de 14h à 16h une table ronde sur les questions des résistances et des alternatives que nous pouvons proposer en tant que mouvement associatif, social. Et maintenant, dans ce temps de dialogue, nous reviendrons sur les deux tables rondes qui se sont tenues cet après-midi. Donc la première traitait de la question du travail social, un enjeu politique. Donc Lionel était intervenant sur cette table ronde. Et la deuxième traitait de la question de l'agir citoyen au cœur de la création collective, auquel Marie-Hélène a participé. Donc sans plus tarder, nous allons débattre, échanger, dialoguer entre ces deux tables rondes, car cette question de la formation dans le travail social et la question de la participation des habitants et des collectifs citoyens est fondamentale. Donc c'est parti pour ces trois quarts d'heure de dialogue entre ces deux tables rondes. Sans plus tarder, la parole à Lionel. Pourrais-tu un peu nous décrire, nous évoquer un peu les éléments saillants de cette table ronde auquel tu as participé?
Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, la table ronde portait sur la question politique dans le travail social. Alors, elle s'articulait autour de trois questions. La première question, c'était le travail social est-il un enjeu politique ou a-t-il un enjeu politique? Si oui, lequel? La deuxième question était la question de la dimension politique dans la formation des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales. Et la troisième était la question de en quoi le travail social est-il un levier de transformation de la société? Alors, tout d'abord, par rapport à cette première question, le travail social est-il ou a-t-il un enjeu politique? Eh bien, les quatre intervenantes, nous avons répondu oui. Alors oui, évidemment. Alors évidemment parce que parfois, il s'est perdu un peu de vue cette dimension politique. Et il nous semble que le fait d'essayer d'invisibiliser la dimension politique du travail social, c'est un acte profondément politique. Et donc, non seulement nous avons répondu oui, évidemment, mais aussi nous avons répondu oui, oui, oui et oui, car nous pensons qu'il faut absolument réaffirmer la dimension politique du travail social. Dans toutes ces dimensions d'ailleurs. Alors pour illustrer cette dimension politique du travail social, il y a un exemple que j'ai amené dans la table ronde qui me semble vraiment très parlant. C'est je suis en contact avec un groupement de travailleurs et travailleuses sociales sur un territoire. Et bien directement les questions qui se posaient dans ce groupement c'était qu'est-ce qu'on fait ensemble, mais du coup quelles sont nos intentions? Quel sens nous donnons à notre action sociale? Et donc ça, c'est une question qui est éminemment politique. Répondre à cette question, c'est une prise de position politique, clairement. La deuxième chose, c'était au sein de ce groupement, il y a aussi tout un travail sur le langage. C'est se dire quel langage pouvons-nous utiliser, à la fois pour dialoguer ensemble, évidemment, mais aussi pour penser nos pratiques, pour parler de nos pratiques. À plusieurs reprises, il y avait des impasses dans nos échanges, parce qu'on se retrouvait à devoir utiliser des mots de la domination. Et donc, il y a clairement, c'est vraiment posé la question du rapport politique autour du langage dans tous les moments d'échange et d'élaboration collective.
Et tu pourrais nous donner un exemple, Lionel, s'il te plaît?
Ah oui, il y a un des groupements, donc c'est le mouvement pour une psychiatrie démocratique en milieu de vie. Pour expliciter, mais aussi faire vivre ses propositions politiques et ses propositions institutionnelles, il les a construites autour de trois univers de référence. Un premier univers de référence qui est la question de la reconnaissance et de l'émancipation. Un deuxième qui est autour de la question de l'hospitalité, c'est-à-dire comment travailler à rendre la société plus hospitalière, mais aussi comment est-ce que la question de l'hospitalité nous travaille. Quand je dis nous travaille, c'est chacun, chacune d'entre nous. C'est parfois quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est parfois quelque chose qui peut nous mettre en difficulté, la question de l'accueil, de l'hospitalité. Et finalement, le troisième univers de référence, c'est la question de la justice sociale. Et c'est bien sur base de ces trois univers de référence qu'une action se pense, que des propositions s'élaborent. Et ces trois univers de référence sont évidemment mis en lien avec toute une série de témoignages sensibles de personnes qui ont des trajectoires de vie parfois compliquées ou parfois en prod de souffrances psychiques.
Donc ça, c'est vraiment c'est le projet qui est développé dans cette structure qui...
Donc en fait, c'est un mouvement qui regroupe plusieurs structures. Et parmi ces structures, il y a une structure qui est reconnue en éducation permanente. Donc en Belgique, l'éducation permanente, c'est un domaine qui se rapproche de l'éducation populaire, mais qui a été nommé autrement dans l'histoire. Voilà. Donc c'est un peu le croisement, on pourrait dire, d'une certaine manière, pour faire vite, le croisement entre l'éducation populaire et l'éducation tout au long de la vie, mais quand même plus versant éducation populaire. Et donc cette association-là regroupe toute une série de travailleurs, de travailleuses, mais aussi de personnes qui bénéficient du soutien, de l'accompagnement de ces travailleurs, ces travailleuses, pour réfléchir, élaborer et penser une autre manière de proposer à la fois des politiques territoriales au niveau de la santé mentale, mais aussi des institutions qui pourraient répondre à ces intentions, à la fois d'émancipation pour les personnes, mais aussi qui permettent de rendre un territoire plus hospitalier pour l'ensemble de sa population, et notamment pour sa population fragilisée, et enfin qui permettent d'avoir des politiques qui tendent vers plus de justice sociale. Et donc c'est un propos qui est éminemment politique et pas un propos qui serait centré sur une question de manière de soigner ou quoi. Non, c'est avant tout une question politique.
Ouais, donc on y reviendra tout à l'heure, c'est cette question de la participation dans l'élaboration des politiques publiques.
Notamment,
en fait.
Oui.
Ok. Et quels ont été les autres éléments saillants de la table ronde ?
En tous les cas, après avoir affirmé effectivement que le travail social... est un enjeu politique, se poser la question de savoir, mais du coup, finalement, comment est-ce que cette dimension politique peut vivre dans la formation des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales. Eh bien, là, il y avait vraiment une description. Alors, c'était plusieurs personnes qui étaient de France, et donc, évidemment, il y a une série de choses qui étaient plus à distance de ce que je peux connaître. Mais qui effectivement parlait de la manière dont l'organisation, en tous les cas dans les écoles de CMEA, était pensée, l'organisation à la fois des formations, tant sur les processus pédagogiques à l'œuvre que sur les questions d'acquisition de compétences. Comment, à un moment donné, les stagiaires, alors appelés différemment selon les écoles parfois, mais sont amenés à participer à tout un travail de réflexion, mais comment il y a aussi toute une question autour de l'évaluation continue, de l'évaluation formative. Et c'est la question sur laquelle on a atterri dans l'atelier, qui n'est pas du tout neutre politiquement non plus, parce que est-ce qu'on veut une évaluation qui permet à chaque individu de poursuivre son parcours et d'aller vers progressivement un peu plus d'émancipation, ou bien est-ce qu'on veut une évaluation qui, à un moment donné, trie ceux qui réussissent et ceux qui ratent, et laisse sur le côté ceux qui ratent. Et ça, c'est une question fondamentale. Et la question de l'évaluation, notamment, pas que celle-là, mais en tout cas, est une question éminemment politique. Comme la question de l'entrée dans les parcours de formation, puisque là, il y avait vraiment une distinction entre admission et sélection. De se dire, mais tiens, est-ce qu'on met en place une procédure de sélection ? Et donc, ça va permettre à certaines de rentrer et d'autres pas, ou bien... procédure ou processus d'admission qui va permettre à chacun chacune de faire tout un travail pour pouvoir y rentrer. Et donc déjà, on voit bien que ce soit au début ou à la fin de la séquence de formation, il y a des questions qui sont éminemment politiques qui se posent. celle à la fois sélection ou admission d'une part, d'autre part évaluation finale, mais aussi tout le processus d'évaluation en cours de formation.
D'accord. Parce qu'en fait aussi, il y a une question très importante dans le travail social et qui rejoint aussi, je pense, l'ensemble de nos propos dans le cadre des rencontres européennes du social. C'est cette question en fait du rapport entre l'individuel et collectif et comment la formation actuelle des travailleurs sociaux n'invite pas sur des dimensions collectives. Comment peut-on transformer cela dans le cadre de la formation ?
Donc il y avait deux choses par rapport à cette question-là, c'est que d'une part, au-delà des processus dont je parlais avant, sélection, admission, mais aussi évaluation, il y avait la question de comment est-ce que pendant tout leur parcours de formation, les personnes sont invitées à s'engager. Donc à la fois à s'engager dans le dispositif de formation, mais c'est aussi à s'engager sur de l'action sur le territoire où sont implantées par exemple les écoles et où du coup il y a des liens avec les associations ou les services sociaux qui sont tout autour, ou les riverains, tous les habitants du quartier avec lesquels une série de choses peut être mise en place, par exemple transformation d'un parc à côté de appartenant à l'école, au bâtiment de l'école, en une espèce de potager collectif avec des habitants du quartier, qui a permis la rencontre non seulement avec les habitants du quartier mais aussi avec des associations du quartier. Voilà, donc il y avait vraiment tout un processus d'engagement qui est soutenu à la fois dans le processus de formation, comme j'en parlais avant, mais aussi engagement plus large, engagement dans la vie de l'école, dans la vie du quartier autour de l'école et dans la vie sociale plus largement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a...
Question de la participation du collectif. On va rebondir sur la table ronde numéro 3 qui était sur l'agir collectif au cœur de la l'agir citoyen au cœur de la création collective, pardon. Donc Marie-Hélène.
Oui, donc on avait dans la table ronde deux expériences intéressantes. Donc l'une de la PEP qui travaille plutôt sur des logiques individuelles auprès de publics en difficulté, handicapés, et puis l'autre d'un collectif de Hambourg qui regroupe à la fois des acteurs culturels et deux églises, et donc qui intervient dans un quartier très, très populaire. Et donc ça nous a permis de voir que quand on parle de participation des citoyens, ça peut prendre des formes très très différentes, et qu'il y a à la fois des logiques d'émancipation, mais qu'il peut aussi y avoir des logiques simplement de gestion, de new public management, qui visent finalement qui prennent les citoyens comme des clients, plus que comme des acteurs, et que derrière le terme participation, il y a donc des logiques, des démarches très 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 différentes qui peuvent partir des habitants comme qui peuvent partir des institutions. Donc ça a été le premier point qui a été mesuré, qui a conduit finalement, qui rencontre pas mal ce qui vient d'être dit sur la table ronde précédente, c'est-à-dire comment passer d'un pouvoir d'agir individuel à un pouvoir d'agir collectif et à une transformation sociale. Donc là, ces trois dimensions articulées semblent vraiment importantes. L'autre question qui a été débattue par la table ronde, c'est finalement la question du pouvoir, puisque un des enjeux de la participation, c'est le pouvoir. Donc c'est de savoir quel est le pouvoir qui est partagé, quelle est la possibilité pour les citoyens d'intervenir dans le champ de la décision, et donc du coup comment est-ce que les élus d'un côté, les professionnels de l'autre sont capables et sont désireux de partager ce pouvoir.
Oui, et comme on l'a également vu, c'est cette question aussi que la participation fait peur.
Voilà. Donc effectivement, la participation fait peur d'un côté très souvent aux élus, qui voient souvent dans la participation des formes de contestation et qui ont très souvent peur du conflit. Or, la démocratie, c'est d'abord le conflit. Et c'est à partir du conflit qu'on peut débattre, qu'on peut élaborer, qu'on peut délibérer, parce que il peut y avoir des points de vue, des intérêts qui sont irréductibles sur une série de questions. Donc les élus ont peur de ce conflit, ils ont peur d'une remise en cause de leur pouvoir, ils ont souvent peur que les espaces participatifs soient investis par des opposants, mais aussi des craintes d'un certain nombre de professionnels qui pensent qu'ils ont des connaissances, des expertises qui leur permettent de prendre des décisions, souvent à la place d'eux, et donc ils ne sont pas prêts non plus à partager leur pouvoir. Donc le pouvoir fait peur, en effet.
Et justement, c'est un peu cette question aussi je me retourne vers vous deux, c'est cette question aussi du rapport dans notre modèle éducatif entre sachant et apprenant. Du coup, on a toujours été éduqué dans un modèle où d'un côté il y a des sachants et d'un côté des apprenants. Et c'est vrai que du coup, dans ce que tu viens d'évoquer, Marie-Hélène, on est vraiment sur cette question-là. Et dans la question du travail social aussi, c'est d'un côté, il y a ceux qu'on accompagne et il y a les accompagnants et les accompagnés. Et du coup, est-ce que c'est pas ces rapports de pouvoir qu'on inverse, et est-ce que justement l'enjeu du travail social, c'est pas inverser les rapports de pouvoir?
Alors oui, moi ce qui me venait, c'est... Peut-être que l'enjeu, c'est de renverser les rapports de pouvoir. Mais je me disais qu'il y a cette différence entre apprenant et...
Sachant,
c'est comme ça, voilà, oui. Mais je me dis, c'est aussi... ce qui est problématique, je pense, c'est quand le savoir se transforme en pouvoir. C'est-à-dire que le fait que des personnes aient des savoirs et qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent les dispenser, en soi, je trouve que ça peut être vachement intéressant. Maintenant... Quand soit le savoir ou l'expertise professionnelle, parce que c'est la même chose effectivement pour les professionnels, se transforme en prise de pouvoir sur l'autre, en prise de pouvoir dans la relation, en prise de pouvoir sur les dispositifs, toutes les prises de pouvoir qu'on pourrait imaginer, c'est là que c'est problématique. Et donc ce que je trouve intéressant dans l'expérience que je mentionnais du mouvement pour une psychiatrie démocratique en milieu de vie, c'est vraiment la place qui est faite aux personnes qui ne sont non professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels, il y a des militants, militantes, et puis il y a des personnes qui ont des trajectoires de vie qui ne sont ni militantes ni professionnelles, mais qui ont une véritable expertise, alors qui est liée à ce qu'elles ont pu traverser, à ce qu'elles ont pu vivre, à leur connaissance parfois assez fine des institutions pour avoir dû les subir. Et donc c'est vraiment le maillage de tout ça qui peut faire émerger... eh bien, des propositions un peu, alors je vais dire innovantes, même si je suis parfois un peu en difficulté avec ce mot-là, mais des propositions nouvelles, autres, alternatives peut-être, sur un territoire. En tous les cas, ça c'est un des enjeux, par exemple, effectivement.
Il me semble qu'un des enjeux, c'est d'être capable de mettre en dialogue ces savoirs et de les mettre en discussion. Par exemple, ce que j'entends là sur la psychiatrie, ça me fait penser beaucoup à la psychiatrie, à la psychologie communautaire, qui est un mouvement qui s'était développé beaucoup aux États-Unis, où on considérait que le patient avait un savoir qui était le savoir de sa maladie, le savoir de l'expérience, et qu'il ne pouvait pas y avoir de traitement sans prise en compte de cette expérience. Et c'est vrai dans beaucoup de cas. Donc bien sûr, l'idée n'est pas de nier qu'il y a des savoirs de l'expertise, que l'urbaniste par exemple a un savoir, mais c'est de faire en sorte que ce savoir sache s'enrichir d'autres savoirs. Et donc moi je crois beaucoup à l'idée de la co-formation. Par exemple, quand un enseignant arrive dans un quartier populaire dont il ne connaît pas forcément les codes, dont il ne connaît pas forcément la culture, qu'il soit en mesure d'être formé par des associations, par des parents, pour comprendre où il arrive et pour pouvoir adapter son expérience pédagogique à l'expérience sociale des enfants avec lesquels il va travailler. Donc cette dimension de co-formation, moi, me semble vraiment très, très importante. Ce qui veut dire qu'on a une approche plurielle des savoirs.
Mmh. Oui, Lionel, tu veux réagir par rapport à ça ?
Oui, ça me venait parce que ce qui me venait, c'est un autre groupe donc, qui n'est pas le mouvement dont je parlais là, mais qui en est... inspiré, qui est en lien, là c'est vraiment des travailleurs sociaux qui se regroupent et qui essayent ensemble de créer les conditions d'une autre manière de pouvoir travailler. Alors bon, c'est un long cheminement qui a abouti à la réflexion sur la possibilité d'élaborer des propositions pour rencontrer les autorités politiques, pour penser avec elles les politiques, notamment de santé, les politiques sociales et les politiques de santé mentale sur le territoire. Et alors, j'aimais bien la notion de conflit que tu rappelais par rapport à la question démocratique, parce qu'il y a plein de conflits dans ce groupe-là. Mais il y a quelque chose qui fait que ce sont des conflits qui sont mis au travail. Et qui sont mis au travail d'une manière qui permette que de plus en plus de personnes s'accrochent à ce groupe, reviennent, et donc commencent à penser aussi collectivement. Il commence à y avoir une pensée collective de ce groupe qui émerge parce qu'il y a suffisamment de matière à travailler, de matière qui a été travaillée. C'est-à-dire qu'entre services, il y a des rivalités. Entre services, il y a des conflits de compétences. Mais ce qui prime, c'est plutôt se dire, bah tiens, on commence entre travailleurs à créer des liens. Des liens qui n'existaient pas et qui nous permettent de nous penser autrement les uns par rapport aux autres. Et donc c'est aussi avoir accès à des ressources sur le territoire pour les personnes qu'on accompagne. Parce qu'en même temps, on commence à apprendre que ah, dans tel service, il y a un budget qui n'est jamais utilisé. Et donc ça veut dire que les personnes que j'accompagne en tant que professionnel, finalement, je ne les accompagne pas dans le fait de faire valoir un droit. Alors ça peut être sur une question financière, hein, mais pas que sur des questions financières, mais je ne les accompagne pas à pouvoir faire valoir l'ensemble de leurs droits sur le territoire, simplement parce que j'ai aussi une méconnaissance de ce qui se fait dans les autres services. Et donc là, il y a vraiment cette question de lien qui se crée, de connaissances réciproques et de capacité de penser les situations complexes ensemble, et donc de commencer à créer une action vraiment collective et un travail en réseau qui commence à s'élaborer vraiment sur une base éthique commune. Et ça, c'est vraiment, je pense, aussi fondamental.
Merci Lionel. On va faire un petit interlude musical de quelques minutes et on revient sur ces questions passionnantes.
Au premier rendez-vous, c'est là que tout se joue. Et si nos jeux devenaient nous, après ce premier rendez-vous.
Cette petite pause musicale, nous allons partir voyager un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, car Marie-Hélène a eu une expérience passionnante de ce côté du monde, et notamment elle pourrait aussi, elle va nous évoquer la question d'un auteur engagé, je ne sais pas comment on peut le définir, Saul Alinsky, et mettre en lien aussi toi avec les expériences que tu as pu découvrir, partager là-bas.
Alors Solaninsky, c'est un, comme disent les Américains, un community organizer, c'est-à-dire un organisateur communautaire. C'est une figure qui n'existe pas en France, je ne sais pas si elle existe en Belgique, qui dès les années 30 a commencé à organiser des habitants dans des quartiers populaires à partir de leur colère, à partir de leurs revendications, et qui à partir de ça a monté une méthode de community organizing, et puis a formé des organizers, a créé une fondation pour développer ces méthodes et mettre en réseau aussi ces différents quartiers. Donc ce qui est intéressant dans la démarche d'Alinsky, c'est qu'il part des questions des habitants, il part de leurs problèmes, il part de leurs revendications, et à partir de ça, il essaie de monter du collectif, de monter de la pour montrer au collectif d'habitants qu'ils sont en mesure de gagner des petites victoires. Et puis à partir de petites victoires qui peuvent gagner des grandes victoires. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collectifs qui avaient été formés dans ces logiques-là. Par exemple, un collectif à Boston qui regroupait plusieurs associations communautaires dans un quartier totalement délaissé par la municipalité, qui avait brûlé en partie, et qui était un quartier où les habitants de Boston le week-end venaient déposer leurs ordures. Et une des premières actions de ce collectif, ça a été de ramasser toutes les ordures et d'aller les déposer un dimanche sur la place de la mairie. Voilà. Et donc de montrer comme ça qu'ils étaient bien présents. Et progressivement, le collectif s'est vraiment organisé. Et jusqu'à d'ailleurs élaborer tout un projet urbain sur le quartier, un contre-projet urbain face au projet de la municipalité, et même à obtenir de la municipalité qu'elle lui donne quasiment un droit de préemption. Sur le quartier. Donc c'est aujourd'hui un quartier qui est toujours un quartier populaire, où ce collectif a aidé à réaliser du logement accessible, a aidé à réaliser un équipement pour la jeunesse, tout ça étant géré par les habitants. Donc ça me semble une démarche qui est assez intéressante. J'ai pu observer le même type de démarche à Montréal par exemple, dans certains quartiers. Donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait qu'on part des habitants, et ce sont eux qui prennent en charge leurs affaires, qui prennent du pouvoir, qui prennent le pouvoir, qu'ils négocient avec les institutions. Et donc on voit là qu'il y a une articulation entre une logique de mouvement social au départ, qui peut déboucher à un moment donné sur des formes de gestion du quartier, mais tout en étant toujours un mouvement social, c'est-à-dire pas en se faisant avaler par la gestion, mais en gardant en même temps toujours une force critique et une force de mobilisation. Donc c'est ce double positionnement qui n'est pas facile à tenir, mais que je trouve assez passionnant.
Oui, donc on est vraiment cette question de la critique sociale. Et justement, on peut peut-être rebondir sur ces questions de la conscientisation. Je pense que dans la question de la formation dans le travail social, cette question de la conscientisation sociale, politique, elle est extrêmement importante, autant dans les démarches participatives que dans la question de la formation des travailleurs et des travailleuses sociaux, sociales. Lionel, as-tu une réaction face à ça ?
Oui, des éléments qui étaient amenés par rapport à la question de la formation et de comment on fait vivre la dimension politique à travers la formation des travailleurs sociaux. C'était aussi la question de permettre aux personnes qui viennent dans la formation de travailler sur leur propre itinéraire de vie, sur leur propre vécu, sur leur propre colère, sur leurs propres difficultés, et de pouvoir à un moment trouver des espaces dans le cadre de la formation pour à la fois les exprimer, mais aussi les élaborer individuellement, mais surtout collectivement, et que ça puisse servir de matière. C'est de la matière de formation aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois intéressant pour les personnes en elles-mêmes par rapport au cheminement qu'elles vont pouvoir faire en termes de transformation personnelle, mais c'est aussi de la matière vivante, de la matière incarnée qui peut tout à fait être mobilisée pour créer à la fois du savoir entre les parties par les participants, mais aussi pour à un moment donné créer plus de conscience sociale et politique au vu de l'histoire de vie et des parcours des personnes qui arrivent en formation. D'autant que si je reviens sur la question sélection ou admission, le processus d'admission, il a bien pour objectif de permettre à des personnes qui sont dans des parcours compliqués, des parcours de vie compliqués, ou qui sont un peu ou fort fâchés avec l'école, d'arriver à intégrer les formations. Et donc ça veut dire qu'au sein des groupes de ces formations, il y a toute une série de personnes qui vivent une série de difficultés que rencontreront les travailleurs sociaux après. Mmh. Et donc c'est vraiment se dire, mais comment est-ce qu'à un moment donné, au sein de la formation, tout cela existe, a une vraie place, peut être mis au travail, peut permettre des formes aussi de colère, de rébellion et d'action par rapport à concrètement ce que vivent les personnes qui participent à la formation. Hein. C'est pas, il n'y a pas besoin d'aller toujours chercher l'étude de cas parfaite qui a été théorisée par je ne sais pas qui. C'est à un moment de dire, ben voilà, les gens ont une vie, comment est-ce qu'on travaille à partir de la vie des gens, quoi. C'est clairement une matière de formation pour ce genre de formation.
C'est l'idée que la formation est un processus de transformation individuelle et tout à pour fait. Aller sur du collectif.
Oui, tout à fait.
Très bien. Est-ce que vous...
Oui. Ah, mais du coup, dans le rapport dont on parlait avant aussi, entre sachant et apprenant, si à un moment donné, tout le monde est au clair pour dire... ce que les personnes à même d'elles-mêmes dans la formation, c'est clairement de la matière de formation, alors ça joue sur ce rapport-là. Parce que ce que moi je vis, tu peux être la meilleure apprenante du monde, enfin la meilleure sachante du monde, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est un terme qui me paraît un peu bizarre, mais voilà. Ce que moi je vis, tu ne sauras jamais le théoriser comme moi je le ressens. Et donc le fait de le ressentir, de pouvoir avoir un espace pour l'exprimer, pour l'élaborer collectivement, je pense que c'est vraiment fondamental en termes de conscience personnelle de ce que je vis, mais aussi pour les autres. Après, qu'il puisse y avoir un accompagnement des notions théoriques qui viennent étayer toute cette élaboration, je pense que c'est aussi très utile. Mais ça ne remplacera jamais un savoir chaud, un savoir vécu, qui du coup deviendra actionnable pour le futur, quoi.
Oui, et c'est exactement un peu comment cette question... Enfin, Marie-Hélène, tu me coupes si j'ai tort, mais je pense que c'est un peu aussi dans cette idée-là que les mouvements d'émancipation dans les années 70 se sont constitués autant dans le mouvement féministe ou dans le mouvement afro-américain de revendication de lutte sociale. On est exactement sur ces questions d'empowerment, ouais, de... Ouais. De mise en processus de transformation.
Oui, c'est exactement le processus, par exemple, de mise au travail des travailleuses sociales qui ont mis en avant cette notion d'empowerment, qui vient des mouvements sociaux, d'ailleurs, initialement, qui vient notamment des collectifs de femmes qui subissaient de la violence domestique. Et c'est pas par hasard, ce sont des femmes, des travailleuses sociales noires, qui ont réfléchi à partir de leur expérience, de ce qu'était une femme et de ce qu'était être noire, pour travailler sur des méthodes, des dynamiques d'empowerment. Effectivement, dans tout le travail, y compris d'ailleurs le travail de Sol Alinsky, hein, l'idée de partir de son expérience et pour analyser à la fois sa position par rapport aux gens avec lesquels on travaille et dégager des objectifs individuels et collectifs est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est une façon de lier à la fois une émancipation individuelle, une émancipation collective, mais aussi politique, parce que la question des femmes noires, par exemple, c'est à la fois la question du patriarcat, à la fois la question du racisme, et ne pas déboucher sur ces questions-là, c'est rester en chemin, finalement, dans l'analyse et dans le processus d'émancipation. Et le processus d'émancipation individuelle se fera de façon d'autant plus forte si on est capable de mesurer ce qui est de l'ordre des structures, ce qui est de l'ordre de la société, qu'on a plus ou moins incorporé, on incorpore aussi des formes de domination, on incorpore des formes de mise à l'écart, mais comprendre que ça ne vient pas de soi, et que ça ne vient pas que de son expérience personnelle, c'est très important. Donc c'est pour ça que ces trois dimensions me semblent vraiment articulées. Or aujourd'hui, quand on parle d'empowerment ou de pouvoir d'agir, très souvent on en reste à la dimension individuelle. Et cette dimension individuelle, finalement, elle peut conduire, au contraire, dans bien des cas, à responsabiliser les individus, donc du coup à les écraser, finalement, à leur faire porter à eux le poids des inégalités. Donc c'est pour ça que ce que tu disais au début sur les questions de justice me semble quelque chose de très important.
Cette question, on est au cœur de la question des rapports de domination aujourd'hui et comment on peut transformer cela. Je vois Lionel qui a envie de s'exprimer.
Oui, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, en entendant la dernière intervention, c'était vraiment sur la question de la déconstruction. Ça a été abordé un moment dans la table ronde, de dire, mais les méthodes que nous utilisons au CMEA, elles ont aussi pour but de permettre à chacun, chacune, de déconstruire toute une série de représentations ou même de processus de domination intégrés pour qu'à un moment donné, nous puissions à un moment être critiques par rapport à tout ça, être critiques de ce dont nous sommes porteurs et porteuses pour pouvoir le mettre au travail. Et effectivement, alors ce que nous on dit souvent au CMEA belge, c'est donner aux personnes le choix. C'est-à-dire, si à un moment donné, je peux avoir conscience d'une chose, alors je peux avoir plus de choix par rapport à la possibilité de la conserver, de la transformer ou d'essayer d'en prendre distance. Mais pour ça, ça nécessite un travail effectivement un travail critique, un travail de déconstruction qui nous semble être, alors j'allais dire nécessairement collectif. Mais bon, peut-être qu'individuellement, il y a moyen de faire une partie de ce travail-là. Mais j'ai l'impression qu'il prend tout son sens et toute sa puissance dans le travail collectif et à travers le travail collectif. Et du coup, la deuxième chose que je voulais... Je revenais à la troisième question de la table ronde qui était le travail social. En quoi peut-il être levier de transformation de la société? Il me semble que tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est ça. C'est se dire à un moment donné si les personnes qui sont professionnelles du travail social ou militantes du travail social sont chargées de toutes les dimensions dont nous étions en train de parler, alors à ce moment-là, ce sont des personnes qui peuvent être disponibles à accompagner des processus instituants dans la société. Mais pour ça, il faut l'avoir d'une certaine manière vécu. Et donc, quand on dit, dans une école, si à un moment donné, les étudiants et étudiantes se mobilisent pour dire, tel fonctionnement de l'école ne nous convient pas, s'organiser et tout. Alors, pour certaines personnes, ça paraît être ridicule, ou ça paraît être anodin, ou ça pourrait ne pas avoir de sens. Mais si on voit que ce sont des personnes qui, à un moment donné, prennent conscience d'une difficulté, s'organisent collectivement et sont en train de faire des propositions qui sont instituantes dans l'institution qui les forme, alors ça prend une autre dimension parce que c'est bien ce qu'on va leur demander de pouvoir faire avec des collectifs ou avec des individus plus tard dans leur travail. C'est accompagner ces processus-là. Et donc, pour pouvoir les accompagner au mieux, il faut l'avoir vécu. Mais ce qui ne veut pas dire que, par exemple, pour accompagner des personnes toxicomanes, il faut être toxicomane soi-même. Ça n'a rien à voir. Mmh. C'est est-ce que dans ma vie, que ce soit dans mes études ou ailleurs, j'ai pu vivre ce processus qui, à un moment donné, part de quelque chose qui me dérange, qui me met en colère, qui ne va pas pour moi et peut-être pour d'autres. Et est-ce qu'à un moment donné, j'ai l'occasion de le mettre au travail, de le mettre au travail collectivement et que ça aboutisse à quelque chose qui soit de l'ordre de la proposition et se concrétise? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui peut exister dans les formations CMEA, par exemple.
Donc le travail social serait aussi un travail de décolonisation et la participation, ce serait une réponse justement à ce travail de décolonisation. Est-ce qu'on pourrait...
Ça peut l'être, à certaines conditions. Parce que historiquement, dans le travail social, il y a quand même une forte dimension d'encadrement. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut passer à un autre type de travail social. Ça veut dire que il faut aussi accepter donc du coup de donner un véritable pouvoir, de renverser la table d'une certaine façon. Il faut des moyens Même si on ne peut pas mettre en avant toujours la question des moyens pour ne pas faire, mais il faut quand même des moyens. Et il faut penser que la participation peut conduire à transformer les institutions. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, à côté, elle n'est pas marginale, mais qu'un des enjeux, c'est aussi cette transformation profonde politique. Donc oui, ça peut l'être. Ouais.
Très bien. Je vous remercie. Alors, je vais vous poser un peu une question sur vous, un peu votre ressenti, là, un petit peu sur ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, les échanges que vous avez pu avoir, les quelques personnes que vous avez pu croiser, rencontrer, échanger, un petit peu ces rencontres européennes du social, un peu ce qui est comme ça, en quelques mots, de votre ressenti un peu plus personnel.
Oui, pour moi, ça se passe bien. Je suis assez content d'être là. Et puis, je trouve que c'est toujours intéressant, effectivement, de se retrouver avec des personnes, alors pas qui pensent comme moi, c'est pas ça, mais qui ont suffisamment de points communs avec ma pensée que pour qu'on puisse discuter de manière, en sécurité, sans être nécessairement d'accord. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça permet de ne pas juste se friter, ça permet vraiment de pouvoir construire, avancer sur base de désaccords qui existent. Hein. Et puis alors après, effectivement, c'est toujours intéressant de se retrouver avec des militants, des militantes qui viennent d'un peu partout et de réfléchir ensemble, de partager des moments de rencontre. Ça redonne aussi de l'énergie. Enfin, c'est nourrissant. Pas que juste qu'est-ce que je vais apprendre ici. Je viens pas ici pour. Sinon, on peut lire un bouquin ou regarder une conférence ou écouter la web radio de la FICMEA pour avoir des informations. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pouvoir aussi vivre, partager ce genre de moments. C'est ça qui est important, je pense.
Merci Lionel.
Oui, je crois que c'est une belle expérience de rencontre et ce qui me frappe, c'est la diversité des expériences qu'on a pu entendre et donc une diversité de positionnement des différentes associations collectives qui peuvent être là, mais aussi qu'il y ait une diversité nationale. J'étais frappée en entendant cette expérience allemande à Hambourg, de voir comment en Allemagne on peut faire de l'interculturel, on peut décider qu'on a des espaces qui sont dédiés aux femmes, alors qu'en France on a un discours tellement tendu autour des questions de laïcité, par exemple, avec une vision très très étroite de la laïcité, que c'est totalement impossible. Donc ça donne aussi une perspective qui permet de dire oui, effectivement, on n'est pas forcément totalement enfermé là dans notre cage, mais il y a des possibilités de faire autrement. Et du coup, ça je pense que ça aide à penser. Et voilà, moi je trouve que cette rencontre aide à penser.
Ouais. Très bien, super. Merci à tous les deux pour vos riches interventions. Et on se retrouve demain à 14h sur la web radio. À très bientôt.